Les cours du Collège de France, État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, Alain Supiot.
Bien, bonjour à tous. Je vous laisse vous installer. Bien, je vous remercie de votre fidélité en cette période de congé. Ça résonne un peu. Voilà, autant que ce soit confortable, même si la sourdité me guette. Voilà, merci. Comme vous le savez, on m'a dit à plusieurs reprises que le cours n'étant pas enregistré, c'était compliqué d'y accéder. Et ma réponse a toujours été de dire que, à l'ancienne, je parlais aux gens qui étaient en face de moi, mais qu'en revanche, pour un public plus large, j'essayais de mettre par écrit le contenu des cours. Et donc, je peux vous annoncer la publication dans le courant du mois de mars, de différents travaux qui résultent directement des deux dernières années de cours. D'abord, le cours lui-même va être publié chez Fayard sous le titre « La gouvernance par les nombres » début mars, probablement. Et puis, les deux colloques, les deux séminaires, l'un sur la solidarité doit paraître également en mars aux éditions Adil Jacob, dans la collection des travaux du Collège de France, et le séminaire de l'année dernière sur l'entreprise doit paraître aux éditions Dalloz également dans le courant du mois de mars. Donc il y aura ces publications vont intervenir prochainement. Donc cette année et aussi l'année prochaine, nous allons passer à un autre sujet redoutable, donc la justice sociale internationale, sujet redoutable qu'on ne pourra que approcher, sur lequel on pourra faire quelques ouvertures, puisque cet intitulé désigne un domaine de recherche immense qu'on ne pourra que baliser. Donc on va commencer ce parcours cette année et il se poursuivra de l'année prochaine. Le point de départ juridique, si je puis dire, pour aborder ce cours dans mon esprit, était, ça ne vous surprendra pas, la déclaration de Philadelphie de 1944, au terme de laquelle donc une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale. Donc c'est une consécration de la notion de justice sociale qui était déjà apparue, nous allons le revoir, dans la constitution de l'OIT dès 1919. Mais ce sont les conséquences que cette déclaration tirait de ce qu'elle appelle un objectif fondamental pour tous les États, donc la réalisation de la justice sociale comme condition de la paix. Ce sont ces conséquences qui méritent ici qu'on s'y arrête, puisque on en déduisait que tous les programmes d'action et mesures pris sur le plan national et international, notamment dans le domaine économique et financier, doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent de nature à favoriser et non à entraver l'accomplissement de cet objectif fondamental. Et mission était donnée à l'OIT d'examiner et de considérer à la lumière de cet objectif de justice sociale tous les programmes d'action et mesures d'ordre économique financier à l'échelle internationale. Autrement dit, ce que cette déclaration, je ne dirais pas invitée à faire, parce qu'elle fait toujours partie de la constitution de l'OIT, donc c'est un élément de droit positif, c'est de façon régulière de prendre la mesure des effets sociaux en termes de justice sociale, des modes d'organisation économique et financier. Alors, c'est le point de départ de ce cours, et il ne s'agira évidemment pour moi de procéder à des évaluations d'ordre économique sur la mise en œuvre de cet objectif, mais de prendre le sujet par le bout, si je puis dire, de l'analyse juridique. Ce qu'on peut dire quand même, pour donner quelques éléments, quelques repères statistiques et économiques, c'est que ce sujet est d'une brûlante actualité en raison de l'affaissement de la capacité des États d'assurer le bien-être de leur population et en raison de l'explosion des inégalités de revenus. Dans son dernier portrait social de la France, qui est paru en septembre dernier, l'INSEE observe ainsi qu'en 11 ans, le nombre de sans-domicile a augmenté de 44% dans notre pays. Qu'en 2012, dans les agglomérations d'au moins 20 000 habitants de France métropolitaine, 81 000 adultes, accompagnés de 31 000 enfants, se trouvaient sans domicile. Et les sans-domicile, particulièrement ceux nés en France, portent souvent le poids d'une enfance marquée par des histoires familiales douloureuses. Un quart des sans-domicile nés en France ont été placés dans leur enfance en foyer ou en famille d'accueil, ce qui indique un effet de reproduction de génération en génération de ces situations de misère. Autre donnée, si on sort de la France, au Royaume-Uni, le dernier rapport gouvernemental sur l'alimentation révèle que les 10% les plus pauvres de la population, soit 6,5 millions de personnes, souffrent de sous-alimentation avec un apport calorique de moins de 2000 calories par jour. Et le recours à des banques alimentaires de charité a augmenté spectaculairement en Grande-Bretagne comme du reste en France. D'une façon générale, les taux de pauvreté atteignent des proportions très importantes dans les pays du sud de l'Europe qui ont été touchés par les mesures d'austérité économique. Alors, je vous rappelle que les taux de pauvreté, ce qu'on appelle... Bon, c'est un instrument très imparfait de mesure de la pauvreté, mais là, je le prends pour ce qu'il est. Il y aurait beaucoup à dire sur la notion de pauvreté. On y reviendra peut-être. Là, je le prends au niveau des instruments de mesure dont nous disposons. Et le taux de pauvreté, ça correspond, ou les taux, à une proportion de la population qui vit avec un revenu disponible inférieur à ce seuil. Et ce seuil correspond à un pourcentage du revenu médian national. Le seuil le plus souvent utilisé équivaut à 60% de ce revenu médian, mais il s'agit d'une convention qui correspond à une conception assez large de la pauvreté. On peut aussi utiliser un seuil de 50, voire de 40% qui se focalise alors sur ce qu'on appelle l'extrême ou la grande pauvreté. En fait, aucun seuil n'est objectivement le meilleur, car ces approches quantitatives supposent d'être complétées aussi par des approches qualitatives. Au regard de cet instrument de mesure, 17% des Européens, soit 84 millions de personnes selon l'Institut Eurostat, vivaient sous le seuil de pauvreté en 2011, si l'on prend en compte le seuil à 60%. La Norvège et les Pays-Bas avec 10%, ou le Danemark avec 13%, mais aussi la France avec 14%, font partie des pays où la pauvreté est la plus faible. Si on compare avec même l'Allemagne à 16%, la Grèce 23%, l'Espagne 22%, qui ont les taux de pauvreté les plus élevés. Et l'Italie n'est pas loin avec 19,1%. Donc ces pays sont, de l'Europe du Sud sont fortement touchés par la crise économique et ils ont aussi un taux de chômage particulièrement élevé. Vous avez ici une carte, alors je n'ai pas reporté sur cette carte toutes les données chiffrées, je l'ai fait pour un certain nombre de pays, mais vous pouvez voir qu'en octobre 2014, donc ce sont des chiffres très récents, le taux de chômage s'élevait à 26% en Grèce, 24% en Espagne, et qu'il était particulièrement élevé chez les jeunes. En Grèce, il atteint 58,6%, donc pratiquement 6 jeunes sur 10 on leur dit « il n'y a pas de place pour vous ». Et en Espagne, 53,9%. En Italie, 42,7%. En France, ce taux de chômage des jeunes est de 23,4%. Donc on assiste, disons, d'une façon générale sur l'ensemble des pays européens et beaucoup plus particulièrement dans les pays d'Europe du Sud, à une dégradation sensible au regard des objectifs de justice sociale évoqués tout à l'heure. Si l'on passe maintenant à la question du creusement des inégalités, alors ce creusement est général dans tous les pays engagés dans la globalisation. L'inégalité est mesurée par un indice qui s'appelle l'indice Gini, du nom d'un Italien fasciste d'ailleurs, qui a écrit un intéressant article sur les bases scientifiques du fascisme, qui s'appelait Corrado Gini, mais son chiffre est toujours celui qui est utilisé. Et c'est facile à comprendre, parce que plus il est proche de zéro, plus on s'approche de l'égalité. C'est-à-dire un taux zéro signifierait que tous les habitants ont exactement le même revenu. Et plus le taux est proche de 1, plus on est proche d'une inégalité totale où un seul individu aurait l'ensemble des revenus. À l'échelle du monde, on observe de forts contrastes entre pays. En France, vous voyez sur cette carte, l'Europe et le Canada sont parmi les pays qui ont des scores qui sont relativement bons, de faible inégalité, l'inégalité étant la plus faible dans les pays nordiques. En France, ces inégalités mesurées par cet indicateur s'étaient réduites dans les années 70, et elles n'ont cessé de se creuser depuis la seconde moitié des années 90. Entre 2001 et 2011, le niveau de vie moyen annuel des 10% les plus pauvres a stagné, il a augmenté de 0,9%, tandis qu'à l'opposé, celui des 10% les plus riches a connu une nette augmentation de 16,4%. Donc selon l'indice, l'évolution de l'indice Gini pour la France, que vous voyez ici, marque nettement ce retournement de la courbe. Ces tendances sont beaucoup plus accentuées aux États-Unis, où la part du décile supérieur des revenus a retrouvé dans les années 2000-2010 un niveau de l'ordre de 45 à 50% du revenu national. Alors ce renversement a été étudié notamment dans l'important ouvrage de Thomas Piketty, dont vous avez tous entendu parler, je suppose, sur le capitalisme au XXIe siècle, qui a, donc vous trouverez dans cet ouvrage, quelques tableaux particulièrement intéressants qui ont été construits par lui, qui illustrent cette remontée des inégalités. Alors ce schéma est particulièrement spectaculaire sur la période 1910-2010, où l'on voit très nettement ici un fort taux d'inégalité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, la période post-Seconde Guerre mondiale, donc post-déclaration de Philadelphie, si je puis dire, jusqu'à 1980, avec une réduction du taux d'inégalité, et puis une remontée régulière jusqu'à nos jours. En Europe, ces inégalités étaient aussi fortes à la veille de la Première Guerre mondiale que sous l'Ancien Régime. Et c'est surtout pendant l'après-Seconde Guerre mondiale, là aussi, qu'elles se sont considérablement réduites avant de remonter spectaculairement depuis 30 ans. La différence avec les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, il y avait une classe moyenne patrimoniale qui existait dès le début du XIXe siècle et qui a connu des hauts et des bas jusqu'à la remontée des inégalités à compter des années Reagan. Et c'est pourquoi la nostalgie du Tea Party est celle des pères fondateurs et non pas celle des Trente Glorieuses. Ça explique cette différence de sensibilité par rapport à la situation européenne. Mais des deux côtés de l'Atlantique, le fait majeur est bien l'accumulation d'une part grandissante des richesses entre les mains des 10% et plus encore des 1% les plus fortunés, comme le montre ce graphique également issu du livre de Thomas Piketty. Donc voilà le tableau, et on peut dire que, sans prétendre ici faire des évaluations économiques, au regard justement de la déclaration de Philadelphie, enfin de l'objectif de justice sociale, le sentiment global qui se dégage de ces données, qui incontestable, c'est qu'il y a une régression en termes de réalisation de cet objectif de justice sociale. Et alors on pourrait s'attendre à ce que cet objectif soit donc réaffirmé dans les textes les plus récents. Or, il n'en est rien. Ce que l'on observe au contraire, c'est une disparition de cet objectif dans les priorités politiques affichées actuellement, tant à l'échelon des gouvernements que de l'Union européenne ou des institutions internationales. Alors, on trouve bien une référence à la justice sociale dans la déclaration du millénaire pour le développement qui a été adoptée en 2000 par l'Assemblée générale des Nations unies Et où l'on peut lire, les problèmes mondiaux doivent être gérés multilatéralement et de telle façon que les coûts et les charges soient justement répartis conformément aux principes fondamentaux de l'équité et de la justice sociale. Ceux qui souffrent ou qui sont particulièrement défavorisés méritent une aide de la part des privilégiés. Donc voyez le déplacement d'analyse par rapport à la déclaration de Philadelphie, qui disait « s'il y a injustice, il faut réinterroger les modes d'organisation économique et financière ». Ici, on dit « s'il y a injustice, il faut des programmes d'aide ». Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut corriger à la marge les effets d'un système et non pas réinterroger les règles de fonctionnement de ce système. Et cette orientation est encore plus visible si l'on prend la liste des 8 objectifs fixés par cette déclaration du millénaire, puisqu'aucun de ces objectifs ne vise à soumettre l'organisation économique et financière des échanges à la justice sociale. Il s'agit donc d'éliminer l'extrême pauvreté, d'assurer l'éducation primaire pour tous, de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, de réduire la mortalité infantile, d'améliorer la santé maternelle, de combattre le sida, le paludisme et d'autres maladies, de préserver l'environnement et enfin de mettre en place un partenariat mondial pour le développement. La justice sociale est donc ramenée dans les objectifs du millénaire à la question de la lutte contre l'extrême pauvreté, objet de plans de lutte qui sont conduits notamment sous l'égide de la Banque mondiale et qui ont souvent, je pense en particulier dans le cas des pays africains, ces plans de lutte contre la pauvreté ont succédé à ce qui a été d'abord les plans d'ajustement structurel. Donc on commence par avoir l'ajustement structurel, c'est-à-dire l'apurement des comptes sous l'égide des institutions internationales. Ça entraîne une flambée de la pauvreté et ensuite on vient avec la banque avec des plans de lutte contre la pauvreté. L'objectif numéro 8 de partenariat mondial pour le développement, qui pourrait passer pour celui où se nicherait encore quelque chose comme une réflexion sur qu'est-ce que c'est que ce partenariat qui est une redistribution équitable des fruits de l'activité économique, en réalité recouvre l'aide publique au développement, l'allègement de la dette et l'abolition des barrières douanières. Donc en aucun cas les questions d'organisation économique. Et au fond, il s'agit d'accompagner la généralisation de la concurrence à l'échelle du monde et nullement de la faire dépendre de ses effets sociaux. Et nous verrons qu'il s'agit d'un renversement des orientations politiques encore promues à l'échelle mondiale dans les années 70. C'est-à-dire encore dans les années 70, dans certains documents que nous étudierons, on est au diapason de ce qui se dit dans l'après-guerre. Et c'est à partir des années 80 que s'opère ce retournement. La situation est semblable si on se tourne du côté de l'Union européenne. Si vous prenez l'agenda 2020 de l'Union européenne, alors, vous ne serez pas surpris, enfin, ceux d'entre vous qui ont suivi le cours sur la gouvernance par les nombres ne seraient pas surpris de la façon dont l'Union européenne voit son avenir. C'est-à-dire, c'est une forme de chiffre, d'objectif de ce qu'on a appelé dans le cours, ce que j'ai appelé les indicateurs objectifs. C'est-à-dire, les indicateurs qui sont aussi des objectifs. Donc, 75% de la population doit être employée entre 20 et 64 ans, 3% du PIB pour la recherche, réduction des effets du gaz à effet de serre de 20%, abaissement du taux de sortie précoce à moins de 10%, diplôme d'enseignement supérieur pour au moins 40% et réduction d'au moins 20 millions du nombre des personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale. Ça, c'est cet agenda, si on le confrontait aux performances actuelles, notamment dans le sud de l'Europe, on verrait qu'il est tout à fait loin d'être réalisé. Mais sur un plan plus proprement juridique, le traité sur la gouvernance monétaire européenne, que nous avons évoqué les années précédentes, fixe aux États membres des objectifs exclusivement budgétaires et les tolérances aux écarts sont subordonnées par la Commission à des réformes qui sont dites courageuses, mais qui consistent pour l'essentiel à réduire les protections accordées au travail salarié, à libéraliser le secteur des services et à privatiser un certain nombre de biens publics. C'est le mot d'ordre aujourd'hui, qui conduit, d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir, parce que je pense qu'on consacrait une ou deux heures à la question de la Troïka, qui est de grande actualité. C'est tout à fait frappant de voir que cette dynamique, la mise en œuvre de ces politiques, conduit à ignorer ce qu'étaient les limites juridiques aux compétences de l'Union. Par exemple, l'Union n'a jamais de compétences, c'est dit exclusivement, n'a pas de compétences en matière de détermination des salaires. Mais dans le cadre des plans d'apurement des comptes ouverts par le traité sur la gouvernance monétaire, il y a une compétence générale pour dicter l'ensemble d'une politique économique. Donc il y a un écart entre ce qui est défini dans les traités avec un principe de subsidiarité qui réserve aux États un certain nombre de politiques, dont par exemple, je prends l'exemple de la politique des salaires, mais je pourrais prendre aussi la question de savoir si tel service fondamental doit être géré par le public ou par le privé. Normalement, c'était de la compétence exclusive des États. Par le biais des mémorandas et de la mise en œuvre du traité de la gouvernance de l'euro, il y a une extension considérable, évidemment, de l'emprise des directives qui peuvent émaner des institutions communautaires. Quand je dis des institutions, ce n'est pas le Parlement européen, parce que nous verrons que le Parlement européen a été très critique sur l'action de la Troïka. À l'échelle française, à l'échelle nationale, ces consignes sont plus ou moins suivies, puisque la France, ayant ratifié ce traité pour la gouvernance, est tenue de suivre les indications ou les conseils pressants qui lui sont donnés. Et bon, il y a des éléments d'actualité en ce sens qu'on peut citer. C'est par exemple le tournant marqué par le projet de loi Macron, sur lequel je vais revenir dans un instant, qui envisage de faciliter les licenciements ou de faciliter le recours au travail dominical, le renoncement à une réforme fiscale d'ensemble, la poursuite de la privatisation des équipements publics. C'est le cas actuellement, ce qui est à l'heure du jour, c'est les aéroports. Le basculement progressif de la branche des assurances familiales de la sécurité sociale d'une logique de solidarité entre ménages avec et sans enfants à une logique de charité publique pour les familles pauvres, ou encore la privatisation progressive que j'ai évoquée l'an dernier du petit risque d'assurance maladie qui bascule du côté des complémentaires santé. On observe que toute référence au modèle social européen qui faisait les beaux jours des années 80 ou 90 a disparu du discours politique au niveau européen. Plus personne ne se réfère à l'idée d'un modèle social européen. Et d'ailleurs, M. Draghi, on l'avait cité, le président de la Banque Centrale Européenne, a lui-même déclaré en 2012 que ce modèle était révolu et que le devoir des États membres était de rendre les marchés du travail, qui ne le sont pas encore, plus flexibles. Alors, on pourrait évidemment se poser la question en d'autres termes et se demander pourquoi les systèmes de solidarité, qui à l'évidence ont limité la paupérisation, vous l'avez vu dans les premiers chiffres que j'ai donnés, c'est là où ces systèmes étaient les plus développés, que les taux de pauvreté restent les plus faibles, ces systèmes ont à l'évidence, c'est une efficacité en France ou dans les pays d'Europe du Nord. Mais pourquoi ne parviennent-ils plus à répondre pleinement aux objectifs de justice sociale qui leur avaient été assignés? Et si on se posait cette question, on serait alors conduit à s'interroger sur l'efficacité sociale, non seulement des institutions d'État social, c'est-à-dire de, par exemple du système de sécurité sociale ou des services publics en France, ou du statut salarial, toute question qui mérite d'être en permanence réexaminée et réformée, ça c'est pas le sujet. Mais on serait conduit à aller plus loin, et comme nous y invitait la déclaration de Philadelphie, à s'interroger non seulement donc, sur ces institutions d'État social, mais aussi sur les régimes économiques et monétaires qui ont été mis en place depuis une trentaine d'années à l'échelle du globe. Et sur la base d'un tel diagnostic, à définir des réformes à engager pour renouer avec ces objectifs en agissant à la fois sur les causes de la paupérisation et des inégalités et sur la structure des systèmes de solidarité. Donc on pourrait imaginer, si on était fidèle à l'esprit de Philadelphie, d'agir en même temps sur une réforme permanente des institutions de l'État social et une analyse et une modification des structures économiques et financières, dans la mesure où elles ne permettent pas, non seulement elles ne permettent pas d'atteindre les objectifs de justice sociale, mais elles ont des effets contraires. Alors, une telle démarche supposerait évidemment de faire un retour critique sur les réformes, sur certaines des réformes qui ont été instaurées depuis 30 ans, non pas dans le domaine de l'État social, mais dans le domaine, du droit commercial dans l'ensemble, et du droit financier. J'en prends quelques exemples. Ça supposerait de faire un retour critique, par exemple, sur les réformes inspirées par la corporate governance. Ce sont des réformes que j'ai évoquées l'année dernière parce qu'elles sont une bonne illustration de la gouvernance par les nombres, mais gouvernance des entreprises par les nombres. Je prends un exemple d'une réforme qui s'est généralisée dans les années 90. C'est la levée de l'interdit pour une société anonyme de racheter ses propres actions. C'était un interdit séculaire en droit des sociétés. On considère que les actionnaires ont sacrifié une partie de leur patrimoine pour soutenir une entreprise et ils sont rémunérés par des dividendes. Ce qui justifie leurs dividendes, c'est le fait qu'ils ont affecté une part de leur patrimoine à une entreprise déterminée. Mais on considérait qu'en aucun cas, ils ne doivent s'enrichir aux dépens de l'entreprise. Or, c'est ce qui se passe si on autorise le rachat par une société anonyme de ses propres actions, puisque du jour au lendemain, l'argent qui va être mis dans ce rachat va faire augmenter mécaniquement la valeur des actions détenues par les actionnaires et également le montant des dividendes que chacun d'eux va percevoir, puisqu'ils seront moins nombreux sur le gâteau, si vous voulez. Donc c'est un dispositif qui sert à enrichir les actionnaires au détriment de la personne morale qu'est l'entreprise. C'est pourquoi ça avait toujours été interdit. Et puis, dans les années 90, sous l'influence notamment de la théorie de l'agence que j'ai évoquée dans mes cours l'année dernière, une théorie économique, on a dit non, il faut permettre cet enrichissement parce que c'est une incitation à investir dans les entreprises. Donc il faut lever cet interdit. Et cet interdit a été levé dans la plupart des législations commerciales. Par exemple, en France, c'était le cas d'une loi dite Strauss-Kahn du 2 juillet 1998 qui a donc permis aux sociétés de racheter une partie de leurs titres pour augmenter la valeur de ceux que continuent de détenir les actionnaires. Et cette réforme, évidemment, répondait aux vœux de ceux des actionnaires qui attendent de l'entreprise, non pas tant qu'elle l'entreprenne, c'est-à-dire qu'elle déploie sur le long terme une activité économique rentable, mais bien plutôt qu'elle rapporte le plus d'argent possible dans le moins de temps possible. Autrement dit, elle a plutôt favorisé les comportements spéculatifs du côté que les comportements d'investissement. Et ce que l'on observe aujourd'hui, si l'on voulait analyser cette question de plus près, c'est qu'une très grande part des liquidités dont les banques centrales ont inondé les marchés financiers depuis 2008 dans l'espoir de faire redémarrer l'économie, puisqu'il y a eu aux États-Unis, en Angleterre et en Union européenne des plans massifs d'injection de liquidités vers les banques privées, une grande partie de ces liquidités ont été utilisées par les banques pour essayer de restaurer leur bilan qui était très dégradé. Et ce qui est passé dans les entreprises, eh bien, a servi dans des proportions considérables à ces rachats d'actions. Au point que l'agence Bloomberg elle-même s'en est inquiétée en octobre dernier, observant les comportements des entreprises incluses dans l'index Standard & Poor's, elle constate qu'en 2014, ces grandes entreprises ont dépensé 914 milliards de dollars en distribution de dividendes et rachats d'actions, soit environ 95% de leurs profits. Et la proportion du cash flow utilisé dans le rachat d'actions a plus que doublé en une décennie, alors qu'il y a une panne de l'investissement. Et là, je cite l'agence Bloomberg, cette politique a permis à des plus forts rallyes boursiers de ces 50 dernières années, les rachats d'actions ont augmenté de 300% depuis mars 2009. Donc c'est une pratique massive dans les grandes entreprises de rachat d'actions qui a été permise par une réforme récente qui a été prise dans le cadre de la corporate governance. Et ce que donnent à penser les observations de l'agence Bloomberg ici, c'est que ces réformes n'ont pas conduit, comme c'était prévu, à renforcer le dynamisme des entreprises, mais bien au contraire, contribuent allait rendre très frileuse en matière d'investissement et a plutôt préféré une économie de rente à l'investissement. Donc, on pourrait imaginer, si vous voulez, de revenir, au minimum, de faire des évaluations rigoureuses des réformes qui ont ainsi pesé sur les entreprises. Ce type de réévaluation qui serait dans l'esprit de Philadelphie pourrait porter sur d'autres sujets, par exemple le recours aux stock options, le recours au trading haute fréquence ou l'introduction du principe de fair value dans les normes comptables. Ce sont des exemples que nous avons déjà rencontrés à propos de la gouvernance par les normes. Et toutes ces réformes ont pour effet de plonger les entreprises dans ce que Samuel Jubé, dans sa belle recherche sur les normes, la dimension sociale des normes comptables, appelait un temps anthropique, c'est-à-dire un temps instantané. L'entreprise, l'action de l'entreprise, elle a besoin de temps pour se déployer. Et ce qu'on constate, c'est que ces différentes réformes, qu'il s'agisse des normes comptables, des règles de rachat d'actions, du stock option, l'autorisation du trading haute fréquence, enferment l'action d'entreprise dans un temps extrêmement court. Et ce court-termisme, à terme, est mortel pour l'action d'entreprendre. Donc, une réévaluation de toutes ces réformes, une réévaluation sérieuse de ces effets, qui ne relève pas de la compétence du juriste, j'entends bien, mais ce que peut dire le juriste, c'est que si on suivait les textes fondateurs de l'Organisation internationale du travail, c'est le genre de choses qu'il faudrait faire. Il faudrait les évaluer, on y est invité à le faire. Mais il est remarquable que loin de revenir sur ces réformes, on tend aujourd'hui à en accélérer le cours. Et je vais vous en donner un exemple d'une actualité plus que brûlante, puisqu'il s'agit de l'article 34 de la loi Macron. Alors, l'article 34 de la loi Macron, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont allés lire la loi Macron, mais il faut que vous... Je ne vais pas vous lire, là, cette image, mais c'est pour vous dire qu'il faut y aller, quand même. C'est écrit dans un style qui est assez hermétique pour le lecteur lambda. Alors, de quoi s'agit-il, en fait? Il s'agit, dans cet article 34, d'encourager la cession d'actions gratuites aux salariés en diminuant drastiquement les taxes et les charges sociales sur ces opérations de cession. C'est-à-dire que l'entreprise, pour rémunérer notamment ses cadres dirigeants, peut payer des salaires. Mais si elle paye des salaires, ces salaires sont soumis à des charges sociales qui sont élevées et puis à des impositions qui vont être l'imposition des traitements et salaires. Donc ça coûte cher. Donc l'objectif de cet article est de réduire ce coût des distributions gratuites d'actions en l'alignant plutôt sur les plus-values de valeur mobilière. Or, ce mode de rémunération sous forme de distribution gratuite d'actions est très prisé par les dirigeants d'entreprise. En 2013, 25 des 40 dirigeants des entreprises du CAC 40 se sont vus attribuer des actions gratuites pour un montant moyen d'un million d'euros. Et alors, pourquoi faciliter, ça a l'air de marcher assez bien déjà, puisque ça fonctionne, pourquoi faciliter encore ce dispositif? L'argument de l'exposé des motifs de la loi Macron pour rendre ces opérations plus attractives est le même que celui qui a été mis en avant jadis pour justifier les stocks options. Si vous allez voir l'exposé des motifs, qui est beaucoup plus lisible que le texte de la loi lui-même, les attributions gratuites d'actions constituent un puissant instrument d'intéressement des salariés et des cadres dirigeants à l'augmentation de la valeur de leur société. Elles sont ainsi le moteur d'une plus forte implication des bénéficiaires, de nature à dynamiser le développement de l'entreprise. Là aussi, cette affirmation n'est appuyée dans la loi par aucune étude économique particulière et pas par un retour sur les effets de dispositifs comparables comme par exemple les stock-up. Le résultat de cette réforme, c'est que actuellement imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables au traitement et salaire, ce gain salarial sera imposé selon les principales modalités applicables aux plus-values mobilières, c'est-à-dire beaucoup moins que les salaires et pensions. Alors, on estime que pour 100 euros d'attribution gratuite d'actions, Outre la perte de cotisation 10 sur l'employeur, 2,5 sur le salarié, l'assiette de l'impôt sur revenu sera réduite de 42,5 après CSG, d'où une diminution d'impôt allant de 12,8 euros à 20,8 euros pour un dirigeant d'entreprise. Et la perte d'impôt pour la collectivité fait donc plus que doubler la dépense et le coût social sera encore majoré, notamment en retraite et UNEDIC, si ces 100 euros sont substitués à du salaire classique. Donc le coût estimé pour le budget de l'État de cette division par deux de la fiscalité de la distribution d'actions gratuites est estimé à 200 millions d'euros par Bercy et 500 millions d'euros en régime de croisière. Donc, si vous voulez, ce dispositif, c'est un petit exemple, montre que le législateur est encore sur la même dynamique de réforme que celle qui a commencé à s'engager dans les années 80. Il n'y a pas un retour sur expérience, je peux dire, sur les effets qui ont été les effets de ces réformes en termes de justice sociale, mais plutôt un mouvement pour aller encore en avant dans le même sens. À l'échelle européenne, les désastres sociaux dans lesquels se trouvent plongés les pays du Sud et les tensions nationalistes partout renaissantes devraient, elles aussi, conduire à s'interroger sur la conception de la monnaie unique et ses règles de gouvernance. Autrement dit, de se rappeler le principe, là encore, sur lequel a été fondée l'OIT en 1919, selon lequel il n'est pas de paix durable sans justice sociale. Alors, le cas de la Grèce est évidemment paradigmatique. Voilà quelques données récentes. Donc, le montant des pensions en Grèce a été réduit de 15% pour la seule année 2013. Alors, il y a eu beaucoup de suicides. Ce sont des choses qui ne sont pas formées. Il y a une vague de suicides quand on regarde la presse grecque, ce que je peux faire grâce à des amis grecs, notamment des mères isolées qui vont conduire leurs enfants à l'école et qui vont suicider. Elles laissent un mot en disant que l'Église orthodoxe pourra s'occuper d'eux. Donc il y a eu aussi beaucoup de suicides de retraités. Parce que les pensions étaient réduites selon la technique dite de l'écrêtement horizontal. C'est-à-dire, vous allez dire, je diminue tout le monde de 400 euros. Donc si vous étiez à une pension de 2000 euros, vous avez 1600. Bon. Si vous étiez à 1000, vous avez 600. Et donc éventuellement, ça veut dire que vous ne pouvez plus payer votre logement. Bon. Donc il y a eu ces effets et on ne peut rien comprendre à la situation grecque actuelle si on n'a pas conscience de la brutalité extraordinaire du traitement auquel a été soumise la population grecque. Alors le nombre des fonctionnaires est passé de 800 000 à 600 000 en 4 ans, leurs salaires ont été réduits. Les biens publics les plus rentables ont été privatisés. Alors, il y a le débat actuel sur le port du Pirée. On a supprimé 10 000 lits dans les hôpitaux. Les dépenses éducatives ont diminué de près de 30 %. On a fermé des départements universitaires. Le marché du travail a été dérégulé. Les conventions collectives vidées de leur substance ont supprimé. Nous aurons à y revenir parce que ces mesures ont été censurées par un certain nombre d'organes, je pense en particulier au Comité européen des droits économiques et sociaux, qui est le gardien de la Charte sociale européenne, ou bien par le Comité d'experts du BIT, qui est le gardien des conventions de l'OIT, qui ont été amenés à dire au gouvernement grec, les mesures que vous prenez vous mettent en contravention avec vos engagements internationaux en matière de respect des droits sociaux fondamentaux. Donc ce sont des points sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Mais là, je dresse juste un petit tableau de la situation. On reviendra sur sa dimension juridique plus tard. Donc les salaires ont diminué de 22% en 3 ans et 28% de la population est en chômage, on a vu les titres. Et un quart de la population sous le seuil de pauvreté et une faillite massive de PME. Et le plus affligeant de ce tableau, c'est que la dette publique n'en a pas moins continué d'augmenter. C'est-à-dire, on pourrait, si c'est purge, qui se font au sacrifice de vie humaine, avait permis d'améliorer les comptes. On pourrait dire c'est dur, mais... Or, non. Elle a atteint 177% du PIB en 2014. En réalité, le seul élément nouveau de cette situation, c'est que les banques privées se sont largement désengagées et que le risque de défaut pèse maintenant davantage sur le contribuable européen. Pour vous donner une idée, c'est seulement 20 milliards d'euros, soit moins de 10% des 210 milliards d'aides qui ont été accordées à la Grèce, qui ont servi pour soutenir l'économie de ce pays. Tout le reste a été utilisé pour rembourser les créanciers et les banques privées qui étaient les principales menacées par un défaut. Et à la sortie de cette restructuration, le taux d'endettement de la Grèce est toujours à 140% du PIB. Et selon le FMI lui-même, les plans de secours ont essentiellement servi à déplacer l'exposition du risque du privé vers le public. Alors là, vous avez, bon, le temps nous est compté, je ne peux pas rentrer trop dans les tableaux, mais c'est très intéressant ce document, parce que le FMI sur ce tableau, vous avez en noir la courbe, c'est celle donc des créances portées principalement par les banques privées, et en bleu étrangères, et en bleu par les banques privées grecques. Et puis en rouge, c'est la créance d'institutions publiques, essentiellement les institutions européennes. Alors vous voyez, il y a un croisement très spectaculaire de la courbe qui se met en œuvre à partir des premiers plans de sauvetage de la Grèce. Donc l'effet ici réel. Alors ce qui est expliqué, je vous ai traduit à côté l'explication de ce tableau par le FMI, qui dit que pour une part, cet effet était voulu, donc il s'agissait d'éviter aux créanciers privés, donc aux banques, de boire un bouillon grec, en socialisant la perte, mais que cet effet a été accéléré par le fait que lorsque on s'est mis d'accord sur une certaine réduction, un certain abandon d'une partie de leurs créances par les créanciers privés, les détenteurs publics de créances sur la Grèce, principalement la BCE et les banques centrales européennes, n'ont pas voulu se joindre à ce plan parce que c'était contraire à la lettre des traités qui interdit, en tout état de cause, à la banque centrale de financer directement les États. Alors, apparemment, ils n'ont pas abandonné une partie de leurs créances. La proportion relative de la créance publique a augmenté. Bon. Je ne veux pas vous assommer quand même de données chiffrées trop, c'est pour vous faire un petit tableau. Simplement, s'interroger sur la justice sociale de tels plans et programmes de restructuration supposerait d'admettre, et c'est peut-être la naïveté de départ sur laquelle a commencé ce cours, d'admettre que la justice sociale est une valeur à l'aune de laquelle on doit encore apprécier ces réformes. Or, on sait que c'est la critique de l'idée même de justice sociale, qui a été dénoncée comme un mirage, c'est l'expression de Friedrich Hayek, cette critique de la justice sociale a été justement le fer de lance du nouvel ordre économique international instauré depuis le tournant ultralibéral des années 1980. Alors, est-ce à dire que cette notion était liée à un certain état de l'histoire et que la notion de justice sociale aurait perdu de sa pertinence ? Ou bien, au contraire, doit-on considérer que le mirage est plutôt celui du règne de ce que Hayek appelait la catalaxie et que l'ultralibéralisme entend étendre à l'échelle du globe, c'est-à-dire celui, je cite Hayek, la catalaxie, c'est un ordre engendré par l'ajustement mutuel de nombreuses économies individuelles sur un marché. Donc, c'est ça qui est donné comme règle de base de l'organisation économique et financière internationale aujourd'hui. C'est sur un tel ordre que doit reposer, selon Hayek, ce qu'il appelait la grande société ouverte, ce qu'on appellerait la société globalisée aujourd'hui. Or, écrit-il, une grande société n'a que faire de la solidarité au sens propre du mot, c'est-à-dire de l'union de tous sur des buts connus. Elles sont même incompatibles. Bon. Alors, sur cette base, évidemment, se donner comme but commun à l'échelle internationale ou à l'échelle nationale la réalisation d'une certaine justice n'a aucun sens dans un tel système de pensée. Donc vous voyez, il n'y a pas de consensus actuellement sur l'idée même de justice sociale. Et ça fait une grande différence par rapport à l'après-Seconde Guerre mondiale où, bon, c'était pas sans sous-entendu ou arrière-pensée, mais partout on considérait que c'était un objectif légitime pour les politiques nationales et internationales. Or aujourd'hui, ce consensus, non seulement il n'existe pas, mais ce qui est dominant comme système de référence politique consiste à dire que tel objectif n'a pas de sens, mais qu'il est contre-productif, c'est-à-dire qu'il est contraire à ce que doit être l'ordre économique international. C'est pourquoi, avant d'en venir à des questions d'actualité plus brûlantes, je commencerai le cours en rappelant, dans une première partie, les cadres conceptuels dans lesquels s'inscrit cette notion de justice sociale. Alors, j'étudierai son cadre théorique, qui va être abordé dans un premier chapitre, donnant un rapide panorama des différents sens dont la notion de justice sociale a pu être chargée, et d'autre part, son cadre historique, avec dans un deuxième chapitre l'étude des avatars juridiques de l'idée de justice sociale internationale depuis la fin du 19e siècle. Et ces cadres, une fois tracés, nous aborderons dans la suite du cours l'actualité de la justice sociale internationale dans une partie consacrée à ses sources normatives et une autre à ses gardiens. Donc, premier chapitre, sous forme de question, mais qu'est-ce donc que la justice sociale? Quoi est-ce? Il y a déjà un préliminaire à cette question, c'est doit-on admettre que la question de la justice tout court relève de l'analyse juridique? Ça ne va pas de soi, car la notion de justice a été en principe évincée par le positivisme du champ de ce qu'on appelle la science du droit. Se référer à la justice, ça serait sortir d'une analyse purement positiviste et donc scientifique du droit. Cette tendance était déjà présente avant la Seconde Guerre mondiale, et déjà certains juristes faisaient valoir que cette aspiration à une science du droit qui serait vraiment purgée de toute référence à l'idée de justice était une pure illusion. Et c'était le cas notamment de Henri Dupérou, le père de Jean-Jacques Dupérou, professeur à Toulouse, qui, avec l'aspect sanguin et courageux des gens du Sud, dit « Nos positivistes juridiques ont beau vouloir proscrire cette gênante notion de justice, en finir avec elle, la séquestrer je ne sais où, boucher toutes les issues, le caractère téléologique du droit la réintègre nécessairement à sa place. Elle s'infiltre par chaque règle, elle reparaît dans l'exécution ou dans le refus de l'exécution, toute tentative de colmatage est d'avance vouée à l'échec. Elle suinte, si j'ose dire, de toutes parts. » La remarque du Pérou n'a rien perdu de son actualité ni de sa profondeur. Et aujourd'hui encore, il est très remarquable, très frappant pour un juriste de voir que ce sont, nous allons le voir, soit des philosophes, comme par exemple John Rawls ou Michael Walzer, soit des économistes, comme Amartya Sen, qui se sont efforcés de repenser les questions de justice dans le monde contemporain. Et les juristes sont absents de cette bibliographie, à quelques remarquables exceptions près. L'inconvénient de ce refoulement pour le droit, c'est de s'exposer immanquablement à un retour du refoulé, qui s'infiltre là où on l'attend le moins et dans des conditions non contrôlées par la raison. D'où ces postures un peu schizophréniques d'auteurs qui enjoignent d'un côté, au nom de la science, aux juristes de se taire sur les questions de justice, tout en laissant dans d'autres articles éclater leur indignation dès qu'une décision de justice ne leur paraît pas juste. Bon. Donc c'est postures sont... Enfin, je ne veux pas vous donner des exemples, ça ne sert à rien, parce que j'ai plutôt Moi, j'ai de l'affection pour tous mes collègues. Mais on est obligé de considérer qu'on ne peut pas dire d'un côté qu'il faut se taire, jamais mentionner, et puis dans ses propres écrits, dès qu'on fait un commentaire d'arrêt, se référer de façon implicite à l'idée que ce n'est pas juste, cette décision, elle devrait être autrement. En réalité, Dupérou mettait bien le doigt sur ce que je pourrais appeler la plaie épistémologique, en soulignant le caractère téléologique du droit. Toute règle de droit est conçue relativement à une fin, et elle ne peut donc être intelligible sans considération de cette fin. C'est un objet, il faut essayer de le comprendre, ce texte d'une règle, et pour le comprendre, on est obligé de se référer à la finalité qui lui a été assignée. Et la difficulté rencontrée ici par les juristes est de ce point de vue comparable à celle qui est affrontée par les biologistes en réalité, si on voulait faire un petit dégagement épistémologique ce jeudi matin. Les biologistes, alors je vais être bref comme ça, mais ça me frappe beaucoup ce rapprochement. Il y a un déterminisme mécaniste qui a été emprunté par toute une part de la biologie, qui était emprunté à la physique. Et donc, le problème, lorsqu'on regarde un papillon, c'est surtout de ne pas dire qu'il a des ailes pour voler. Parce que ça serait mettre une fin pour expliquer quelque chose, alors qu'il faut expulser les fins. Parce que dans un modèle physique, il n'y a pas de considération des fins. Quand vous observez la loi de la gravitation universelle, vous n'en êtes pas à quoi ça sert. Bon. En revanche, quand vous observez le papillon, vous êtes amené, ou si les oiseaux qui changent de couleur pour attirer leur... on se dit, mais ils font ça pour attirer. Oui, je l'ai dit, ça y est, c'est trop tard. Alors, et dans ces schémas, alors il y a des gens qui travaillent en philosophie des sciences et en épistémologie de la biologie qui pointent ça en disant, en réalité, les biologistes qui cherchent à éliminer toute considération téléologique dans leurs analyses, la théologie revient, c'est ce que décrit Dupérou, ça revient dans des endroits non contrôlés à ce moment-là. Et ça finit par condamner à expliquer le vivant sans recourir à la notion de finalité d'un système, ce qui est proprement parlé une impasse épistémologique. Et la preuve que ça réapparaît, il y a une notion qui l'illustre très bien et qui est une notion qu'on a rencontrée abondamment ces dernières années à propos de la gouvernance par les nombres, c'est la notion de programme. Le recours à la notion de programme en génétique, c'est-à-dire littéralement, ce programme, c'est ce qui est écrit d'avance. C'est déjà écrit. Eh bien, c'est une notion particulièrement représentative de cette impossibilité de congédier sans reste la considération des fins. Et quand les biologistes se réfèrent au grand livre du génome, ou lorsqu'on voit même le recours au cycle ADN, ça c'est un ami biologiste qui me l'a signalé, comme disait qu'en hébreu c'était Adonai, c'est-à-dire Yahvé, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de tripot quand même derrière la pensée du savant qui serait plus judicieux d'essayer de raisonner. Alors, la question de justice, pour les juristes, ça se présente un peu de la même façon. C'est-à-dire, on peut se dire, si je coupe, je vais être un vrai scientifique, j'observe les règles de droit comme j'observerais des objets physiques, des cailloux. Mais simplement, je suis obligé de les priver de ce qu'a été leur raison d'être. Et donc, non seulement je ne vais pas les comprendre, mais la raison d'être va réapparaître dans des conditions non contrôlées. Et en réalité, si la question de la justice est inéliminable, c'est parce qu'elle est inhérente à l'être humain et se pose dans toutes les sociétés. La réaction à l'injustice est l'une des observations cliniques qui a été réalisée, par exemple, sur les enfants sauvages qui ont grandi en dehors de tout contact humain et n'ont pas d'accès au langage. Vous savez, ce sont ces enfants... régulièrement, des enfants qui ont été abandonnés ou qui se sont perdus, et grâce à des animaux, ils ont survécu, puis on les trouve plus tard, et c'est une espèce mi-homme, mi-animal. Alors, quelqu'un a mis ça en scène de façon très remarquable, c'est François Truffaut. Vous avez peut-être vu, certains d'entre vous ont peut-être vu le film de Truffaut sur l'enfant sauvage. qui a retracé dans un film mémorable donc, l'histoire de l'un de ses enfants, qui s'appelait Victor de l'Aveyron, qui est confié à la fin du XVIIIe siècle à un médecin, le docteur Itard. Et le film montre comment ce docteur tente d'humaniser cet être, ce jeune être. Et alors, il y a une des scènes les plus terribles du film, et que, bon, il essaie de lui apprendre à agir, à obéir, à enchaîner cause, résultat. Donc, il lui apprend des opérations simples, à classer des objets. Et s'il réussit les épreuves auxquelles il est soumis, le docteur lui manifeste satisfaction en lui donnant une friandise. Et à un moment, le docteur décide de faire une expérience sur la justice, justement. C'est-à-dire, il demande à l'enfant de faire un certain nombre d'opérations que l'enfant fait parfaitement, et à ce moment-là, il le frappe. Et on voit dans le regard de l'enfant quelque chose qui est le sentiment de l'injustice, justement. Et c'est un des moments les plus poignants du film, en vérité. Et la croyance selon laquelle seule la force régirait les rapports entre les êtres humains est en réalité une croyance totalitaire qui a toujours débouché sur des impasses mortifères qui ont révélé son irréalisme foncier. Alors, c'est une chose qu'a noté Simone Weil peu de temps avant sa mort. Elle écrivait « Il n'est pas au pouvoir d'un homme d'exclure absolument toute espèce de justice des fins qu'il assigne à ses actions. Les nazis eux-mêmes ne l'ont pu. Si c'était possible à des hommes, eux sans doute l'auraient pu. » En fait, la pérennité d'une société dépend de l'inscription de chacun de ses membres dans la chaîne générationnelle, c'est-à-dire l'attribution à chacun d'une place humainement vivable. Et un État qui ignore cet impératif de justice généalogique est comme le dieu Chronos dévorant ses enfants. Le premier sens du mot État, c'est être stable. C'est status, c'est ce qui est stable. C'est la définition même de l'État. Il ne peut l'être sans prendre cet impératif en charge de justice générationnelle. Autrement dit, la notion la plus propre à désigner la mission première de l'État est celle d'État de justice. L'État de justice, c'est celui qui, à travers, et là, ce point est développé par Pierre Legendre, dans, je peux vous donner, c'est principalement dans Les Enfants du texte, vous trouverez ce point développé. L'État de justice, c'est celui qui, à travers sa propre mise en scène, pose la référence commune aux hommes, à la fois comme pouvoir et comme limite de soi, et remplit ainsi cette fonction anthropologique de base qui est de limiter le sujet, de le marquer, de lui éviter qu'il ait à se fonder lui-même pour vivre. Bon. Alors, ceux d'entre vous qui sont familiers avec l'œuvre de Legendre connaissent cette approche anthropologique sur la fonction de justice de l'État. On peut en déduire que la question de la justice est inéliminable. On peut dire aussi qu'elle est insoluble en ce sens qu'elle ne peut recevoir de réponse définitive. Elle ne cesse de se poser à nous, mais nous savons, enfin, nous devrions savoir que jamais il n'y aura une réponse, une fois pour toutes. On ne pourra jamais dire « ça y est, nous sommes parvenus » à fonder un ordre juste. En effet, elle ne se réduit pas à l'application d'une règle, quelle qu'elle soit, car dans notre tradition, c'est la justice qui est, c'est une figure qui a parcouru l'histoire du droit, la justice est la mère des lois. Alors, vous connaissez mon goût pour le tombeau de François II, fait par Anne de Bretagne. Et ça, c'est l'une des quatre vertus cardinales. Et donc, la voilà, la mère des lois. Nous allons donc commencer, nous commencerons plutôt la semaine prochaine, par retracer à grands traits l'histoire de l'idée de justice sociale dans la tradition occidentale. Et ensuite, on en examinera les différentes dimensions. On se retrouve donc jeudi prochain pour parler, alors j'annonce le premièrement, c'est une petite histoire de l'idée de justice sociale. Donc on se retrouve jeudi prochain pour examiner cette petite histoire ensemble. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.